Et donc bonne année, n'est-ce pas, ceux à qui nous n'avons pas souhaité la bonne année. Eh bien, c'est une œuvre. Alors, c'est un texte que Louis-Jean fait dénicha dans l'enfer. C'est un texte qui date
inachevé.
À moins que le titre provisoire ait un caractère définitif. Auquel cas, oui, c'est un débat. Certains intellectuels de nos jours prétendent que le caractère provisoire de ce titre n'est rien de plus que la quintessence de son caractère définitif. Voilà.
Bien entendu. Bien entendu.
Et c'est dans une certaine
chose, je pense qu'il suffit.
Un doctorat en lettres dans
thème.
C'est vrai que j'ai eu la chance de.
Qui a lancé
le dégage
avec.
On est, n'est-ce pas, entre adultes.
De détendre.
Alors, le titre.
Non, il met. Cela ne me fait pas.
Cela dit, monsieur Bertrand.
Le titre.
On sa version originale. L'occasion de traduire et dénoncer par l'auteur de ce texte. N'est-ce pas, lorsqu'il dit « Je n'ai pas mes lunettes ». Voilà. Et ensuite, le sang, les larmes, les froids coulèrent dans mes veines, comme autant de vipères, de crotales et d'aspics. C'est alors que du bout de ma corde, je décide d'en finir une bonne fois pour toutes avec un bonbon magique.
Bien.
Vous voyez, il me semble que les vipères, les crotales et les aspics, ça me semble évident. L'auteur dénonce le fascisme
bloqué
et la psychologie. Un débat de fond. C'est très beau. Je me suis assez clairement. Ta mère
et que
ce débat tourne à l'infantilisme, à l'infantilisme gratuit, tout ça n'est qu'un tas de non-lieux. Et... Non. Monsieur, vous n'êtes pas sérieux. Il est évident, monsieur, il est évident que James Cameron n'a fait qu'extraire de façon intégrale, et ce sans la moindre vergogne.
Non mais cela c'est un symbole.
Il a fait extraction de ce scénario. L'auteur dans ce texte, donc Panda Doom au titre provisoire, n'est-ce pas? Mais il se peut que l'auteur...
Représentant,
eh bien, il enterre son chien, c'est-à-dire il enterre ses romans, il enterre sa vie passée. Enterrer mon chien Hector.
Eh bien, monsieur Cameron est une petite pique. Voilà.
Alors, on a des questions sur Internet.
Parce que, bon, bien, lorsqu'on lit la phrase aujourd'hui mythique, je me souviens de l'asphalte grignoté par la nature, le sable jusque dans les villes et les rires en bruit de fond. Sans fin, je suis désolé, l'analogie avec Avatar n'est même plus à démontrer.
Alors, justement,
monsieur, restons sérieux.
Si on suit justement, qui ont la peau bleue comme moi, il semblerait que vous êtes ici, face du vent, mais elle est jaune.
Mais il me semble.
Donc, alors là, il est possible que cette mise métaphorique soit juste alors, de la manière à ce que
alors, je me permets de.
Alors, pouvez-vous me rappeler la ligne
de... Que l'intention soit de marquer une différence vis-à-vis du faciès.
Non, la peau bleue est encore une fois une métaphore des parchemins originaux. Au sang bleu, n'est-ce pas? Les habitants de cette planète, les habitants de son royaume sont nobles. Contrairement à l'ennemi asiatique, rappelez-vous que le royaume de l'auteur était en guerre contre l'empire chinois. Que c'était écrit parmi d'autres. Ce n'est jamais qu'une métaphore du contexte.
Une signature
revient pour
l'auteur de cette. Il est présent dans un moment puisque la personne s'adresse à votre auteur. Ainsi donc, je pensais que le bleu représentait donc la force de frappe, la police.
En parlant
de cet état oppressif. Et donc les jeunes, ce serait comme en France, nous avons les Asiatiques, les Arabes et les Noirs qui sont dénigrés et systématiquement subissent des délits de sale gueule par les bleus. Je pensais que on en était là.
Alors, si je puis me permettre d'intervenir. Vous parliez tout à l'heure de force de frappe. C'est très intéressant. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que l'auteur avait prédit avec une vigoureuse acuité ce qui allait se passer, n'est-ce pas, en 1998, qui est la victoire des Bleus à la Coupe du Monde de football. Il me semble clair que l'auteur donnait son pronostic quant au résultat du football et quant à l'existence même de ce sport.
Il faut savoir, qu'alors le maillot des adversaires de l'équipe de France était le Brésilien qui avait un maillot jaune avec un champ
exactement. Et c'est pour cela que je parlais.
Mais parce que peut-être,
c'est ça la beauté de ce que je parlais de ça.
Et
pour ma part, je me masturbe régulièrement toutes les pages. Le faut-il? Je vous pose la question, monsieur. Le faut-il?
C'est d'ailleurs la sensibilité des personnes qui lisent ce texte avant de les présenter. Alors là, non, moi je ne suis pas là pour ça. Il est clairement dit, il est répété que je suis là pour représenter monsieur Cameron face à cette affaire. Ne venez pas me dire que je me masturbe sur un mec qui a offert. Sur monsieur Cameron, je ne dis rien.
Oui.
Mais quand on a un auteur.
Bien, si vous préférez vous masturber sur James Cameron, eh bien soit.
Oui,
masturbez-vous sur James Cameron.
Je vous emmène, je m'en vais.
Ah, bien. Voilà, cet homme-là, vous voyez ce que c'est? Ça, c'est quelqu'un qui est venu pour l'argent.
Il est venu pour l'argent, et si on abaisse sa boîte, eh ben il va perdre son coup. Il n'est pas venu pour donner ses idées. Le débat s'éparpille, hein, je ne veux pas dire, mais je m'en mets.
De vie, bon, clairement. Le bonbon magique.
Il y a des recherches intéressantes à faire. Hein. Comme dans ce texte, et c'est un jour de pluie que ramassant le cadavre de mon chien Hector, cette phrase donc, que nous avons étudiée tout à l'heure.
Approprié, puisqu'il est dans un désespoir certain, il use
où on était ramassant.
Un bonbon magique.
Eh bien, on peut constater que ramassant. Eh bien, c'est un autre champion de la fenêtre. Et que
cet auteur n'a pas été particulièrement bien, puisqu'il
coudole, c'est pas un mot qu'on peut... bonbon magique, et donc Crotal et Aspic, tout à l'heure que du bout de ma corde, j'ai décidé d'en finir une bonne fois pour toutes, avec un bonbon magique, envolé tout au bout du monde.
Puis, si nous avons
bien cela,
les lettres du mot
plus, c'est par cette phrase, l'auteur
avec l'âme, clairement, total de
la beauté de la mort.
Son amour pour... pour la
si
peinture
là,
de
nous ajoutons les deux lettres de deux
et la virgule entre
ça
me semble criant d'évidence.
On obtient
les peintures de Pedro de la Francesca
et clairement ça peut être aussi
un nombre premier
et ainsi que les grands auteurs de la période pré-Renaissance. Mais encore que cela soit n'est-ce pas volontairement une ambiguïté posée par l'auteur qui signalons-le, a le goût de l'allégorie.
Alors, bien entendu, justement.
Alors, c'est l'évangélisation américaine. C'était une forme de... D'ailleurs, ce passage sur interplanétaire qui dit je pense que carré non qui n'a pas noté, c'est
expliqué.
A noter que l'auteur a été traumatisé par la guerre par une milice en rue. Et ce qui explique peut-être son aversion envers le propre et le carré.
Oui, mais rappelez-vous tout de même que le livre a été narré avec un lui-même.
Il cherche à se détacher, mais en même temps, il cherche à s'affirmer. À s'affirmer comment
de cette œuvre, Eh bien,
à travers le mot, à travers la plume, à travers l'encre. Ce qui s'exprime, laissez-moi finir. Ce qui s'exprime très clairement dans le passage, attendez que je retrouve la ligne, 17 longs, 18 coups, question d'intervalle, et comme ça jusqu'à 200.
À noter que jusqu'à 200 quoi.
Que l'auteur fut exilé
jusqu'à 200 quoi.
Je vous le demande. Le bonbon magique
horreur.
Et peut-être
horreur, je ne sais que faire,
mais je sais que mon ironie
pour aller ne suffira pas.
Expérience qui le traumatise, ainsi qu'il en témoigna dans son recueil de poèmes.
Et bien, cela veut dire que mon ironie ne suffira pas. Je vais passer.
Non. Personnellement, allez, je pense que le bonbon magique, c'est l'amour.
Tout ça,
il est clair et net, tout rangé au bout de la corde. Il n'y a pas d'un bonbon magique.
Alors, non, c'est applicable.
D'un côté, il y a son talent, et de l'autre côté, il y a.
Ainsi qu'à la Coupe du Monde de 98, comme nous l'évoquons.
Si, bien entendu. Alors, en gros, moi, j'ai une question de la vie. Moi, qui vois de l'autre côté, voilà.
Mais alors, c'est nous aujourd'hui, de des choses comme ici.
Vous expliquez,
avec le texte, j'ai sorti un livre.
C'est quand même Jean-Pierre Coulze, le précurseur, de l'actionnalisme. Je ne pense pas. Pour ma part, enfin,
de la façon.
Au mouton qui nous voilà.
Voilà. Alors, on est tous les présidents.
Eh bien,
alors que ceux d'ici ont la peau jaune. Voilà, ça c'est clairement. Alors,
c'est la crise.
Et le cœur. Voilà, je voulais simplement. C'est vous-même qui m'avez posé une question, monsieur, et je vous réponds. Une question à laquelle la question. L'on peut considérer ceci comme un avertissement, monsieur.
Je ne pense pas qu'on puisse avertir les gens de quelque chose dont ils n'entrevoient pas l'immensité.
Oui, ça paraît tout à fait crédible ce qu'il dit là.
Je pense que si les gens ne comprennent pas, ils ne peuvent pas s'alarmer et donc il ne sert à rien de les alerter. Ou en tout cas, ce n'est pas possible. La preuve en est, sur ce texte, personne n'a intuité là-dessus, jusqu'à ce que, plusieurs années après, des chercheurs assidus parviennent à avancer ces idées. C'est quand même un certain temps de compréhension.
Oui, mais il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Dans le contexte de l'époque, où comme le disait tout à l'heure notre camarade, j'ai oublié votre nom, mais peu importe. À l'époque, le pays présumé, n'est-ce pas, de l'auteur, était en guerre avec l'Empire de Chine. Il y avait des relations économiques extrêmement, extrêmement tendues avec les épôtres.
Alors, les épôtres.
Les épôtres du pays de Bac.
Membres citadins.
Oui, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Précisez, vous avez raison.
Des villes enfouies dans la montagne. Alors maintenant, nous avons appelé cette chaîne de montagne. Comment s'appelle-t-elle ? L'Himalaya. Et donc, cette civilisation. Apparemment, nous n'avons pu retrouver que très très peu de traces, mais en tout cas de traces archéologiques, j'entends bien. Nous avons quelques écrits, nous avons quelques dires, mais alors, entre mythes et légendes, de quel pied danse ? Donc, il était question d'individus ouverts sur le plan spirituel, hein, donc dans la lignée de la compréhension du monde asiatique, mais poussés au point de pouvoir communiquer avec le ciel. clairement. Et donc ainsi, ces personnes vivant au fond de les grottes pouvaient avoir ce qui leur était bon d'avoir par le ciel. Ainsi donc, nous avons la métaphorie avec les ciseaux, que nous retrouvons plus dans un autre contexte.
Mais tout à fait, tout à fait.
Ces ciseaux qui se font pleuvoir, ça pourrait être une allusion à la capacité de ces individus, en cas de problème et d'avoir à se défendre contre une armée ou je n'en sais rien.
Ce que vous évoquez finalement, monsieur, c'est le courage.
Alors je pense que le courage est à la fois présent et à la fois...
très absent, au final.
Je ne dirais pas absent, je dis... parce que...
parce que c'est quand même très évocateur. Et fuite... c'est à la fois évocateur et très beau ce que dit l'auteur. C'est le... Je reprends un peu plus. Réponds, rends-toi apte à donner une réponse. Invente, imagine ou copie. Ou copie. Mais fais quelque chose. Pique-toi, sniff, mange. Ou tiens, tu veux un joint ? Fais-le, sois. Et soudain, le sol tombe, les cris retentissent. Noir. Voilà. Je pense que ce que l'auteur... l'auteur ne fait qu'évoquer dans ce court passage sa notion de courage, qu'il a hérité de son oncle Harald. Et,
évidemment,
qui restera cher à son cœur jusqu'à son exécution.
Nous avons ce courage qui est emprunt, et je ne le nie aucunement, puisque de fait, cet individu ou ces individus ont écrit cette chose. Hein. Ils ont mis en avant, clairement. De même, dans le texte, on retrouve ce courage, qui n'est pas vraiment absent, car la fuite n'est pas un manque de courage. La fuite, c'est quand même prendre une position. Rester stoïque, ne rien faire, ça c'est le manque de courage. Mais la fuite, c'est une forme de courage alternatif, c'est-à-dire avec une évaluation de « je ne peux pas gagner ».
C'est-à-dire, c'est avec courage qu'il s'est réfugié dans l'écriture.
Avoir le courage de... Exactement.
Avoir le courage de dire
à cette époque-là, pouvoir mettre en avant un texte avec autant de clairvoyance, mais aussi autant de choses qui piquent et qui dérangent,
et à la fois de la virtuosité,
ça c'est infiniment courageux, c'est exemplaire.
Voilà, je pense que sur ces mots, on peut clore notre émission qui s'intitule, n'est-ce pas, 37 minutes. On a dépassé de 3 minutes. Il faudrait, n'est-ce pas, renommer l'émission 40 minutes, mais nous ne le ferons pas. On se retrouve dans une heure pour l'étude d'un nouveau texte.
Ou une prochaine fois. À plus tard.